VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 17h à Conakry, 18h à Niamey. Bienvenue dans notre journal d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Tchad, les écoles et universités de N'Djamena sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Cela fait suite à une manifestation violente d'étudiants contre le port du casque obligatoire. Bagassi Koura.
La manifestation des élèves a fait au moins un mort lundi, selon le gouvernement tchadien. Depuis le 1er mars, un arrêté du ministère de la Sécurité et de l'administration du territoire oblige les motocyclistes à porter un casque. Les étudiants qui dénoncent l'augmentation du prix des casques depuis l'entrée en vigueur de cette mesure sont descendus dans la rue lundi pour manifester. Selon l'AFP, la manifestation a été violente, les élèves ayant incendié des véhicules et bloqué l'accès de plusieurs établissements scolaires de la capitale. La manifestation a été réprimée par les forces de l'ordre, police et gendarmerie, qui ont notamment fait usage de gaz lacrymogène. Selon le porte-parole de la police nationale, le commissaire Paul Manga, un jeune est mort au cours de ces échauffourées. Mais des sources hospitalières que cite l'AFP ont de leur côté fait état de 3 morts et plusieurs blessés.
En Guinée, le pouvoir et l'opposition affichent leur désaccord au lendemain de l'annonce des dates des prochaines élections présidentielles et locales. Le premier tour de la présidentielle est fixé au 11 octobre 2015, tandis que les locales seront organisées fin mars 2016. L'opposition, qui exigeait l'organisation des locales avant la présidentielle, est fondamentalement opposée à ce calendrier. Pour la majorité présidentielle, ce sont des raisons légales et techniques qui empêchent que les élections locales se tiennent avant 2016. Au Mali, la famille de deux mineurs arabes lynchés à mort à Gao, dans le nord du pays, par la foule qui les accusait d'être des poseurs de bombes, a accepté les condoléances présentées en personne par le Premier ministre, Jean-Roger Bion.
Le gouvernement n'a pas encore lavé de tout soupçon les deux jeunes lynchés le 7 mars, quelques heures après l'attentat anti-occidental à Bamako. Hier, le premier ministre Modibo Keïta est allé sur place à Gao pour condamner fermement cette justice expéditive. Selon un membre de son entourage, ces deux jeunes gens appartenaient à la famille de plusieurs responsables soutenant Bamako contre la rébellion, dont l'un, Mohamed Ould Takiou, a affirmé à l'AFP qu'ils avaient été confondus avec des poseurs de bombes et qu'ils avaient été victimes d'une bavure. Le porte-parole du gouvernement, Choguel Maïga, avait annoncé lundi l'ouverture d'une enquête. Lors de cette rare et brève visite à Gao, Modibo Keïta a rencontré des notables, des responsables administratifs et des parents des deux jeunes. Leurs familles ont précisé avoir accepté les condoléances du gouvernement, car selon leur expression, personne n'a le droit de se faire justice lui-même.
Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que la France allait diminuer ses effectifs militaires en Centrafrique pour renforcer son dispositif déployé au Sahel et permettre de faire face aux tensions autour du lac Tchad. Le ministre n'a toutefois pas donné de chiffres. En Tanzanie, plus de 40 personnes ont péri ce mercredi dans le centre du pays dans la collision entre un bus et un camion. Selon un communiqué de la présidence, cet accident est le plus grave rapporté en Tanzanie depuis celui d'un bus qui en 2006 avait quitté la route à une vingtaine de kilomètres d'Arusha et plongé dans une rivière faisant 54 morts. Le véhicule transportait à l'époque 74 personnes pour une capacité de 26 places. En Ouganda, le Parlement a ordonné le remplacement de tous les journalistes couvrant depuis plus de 5 ans ces activités, s'attirant les critiques des médias qui s'estiment victimes d'une tentative de musellement. Au Niger, 170 des 220 salariés d'Areva sont sur le pavé. La multinationale française les a licenciés dans le cadre d'un plan social sur le chantier de la mine d'uranium d'Imouraren dans le nord du pays. Un chantier suspendu depuis août dernier.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, comment les nouvelles technologies sont en train d'aider l'Afrique à relever ses nombreux défis? L'Internet est-il abordable dans votre pays? A-t-il changé votre vie? Vos témoignages sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h15.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
À l'international, en Irak, l'armée et les miliciens chiites affirment ce mercredi être entrés dans la ville de Tikrit, aux mains du groupe djihadiste de l'État islamique depuis juin de l'an dernier. Jacques Aristide.
Des combats difficiles, mais les troupes irakiennes ont pu pénétrer dans le quartier de Qadisiyah et ont pris le contrôle de l'hôpital militaire de Tikrit, d'après un haut gradé des forces gouvernementales. Après avoir tenté d'entrer dans la ville à maintes reprises ces derniers jours, l'avancée des soldats irakiens aux côtés des unités de mobilisation populaire, notamment composées de combattants chiites, est lente, d'après le même militaire, car le terrain, dit-il, est piégé avec des bombes placées autour de la ville et des snipers de l'État islamique. Environ 30 000 soldats sont déployés dans le cadre de cette offensive de l'armée irakienne, laquelle est encadrée par des conseillers iraniens. Ailleurs dans le pays, l'État islamique n'en démord pas. Le groupe a mené ce même mercredi une attaque coordonnée à Ramadi dans l'ouest de l'Irak avec 7 attentats suicides à la voiture piégée. Au moins 10 personnes ont été tuées et 30 blessées selon les premiers bilans. Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Anbar, est l'une des bases de la fulgurante percée des djihadistes en Irak. Depuis des mois, les troupes irakiennes tentent de les en déloger mais n'y sont pas encore totalement parvenues.
Selon l'ONG Physicians for Human Rights, médecins pour les droits de l'homme, le régime syrien a tué plus de 600 personnels médicaux depuis le début du conflit en 2011. Selon leur rapport, les forces de Bachar el-Assad ont systématiquement ciblé les hôpitaux, les cliniques et les personnels médicaux depuis 4 ans pour un total de 233 attaques contre 183 hôpitaux et cliniques, certaines attaques ayant même été menées avec des barils d'explosifs. Selon Erin Gallagher, le directeur des enquêtes pour cette ONG, le gouvernement syrien a même eu recours aux arrestations en salle d'urgence et à la torture et aux exécutions de médecins qui essayent de soigner les blessés ou les malades. Aux États-Unis, les législateurs de l'Utah ont approuvé une loi qui permettrait à un condamné à mort d'être tué par un peloton d'exécution si les médicaments nécessaires aux injections létales ne sont pas disponibles. Plus d'explications avec Camille Grosdidier.
Le texte qui a été approuvé par le Sénat de l'État doit être transmis au gouverneur de l'État, Gary Herbert, qui devra le promulguer. Les partisans de la mesure affirment que la mort par peloton d'exécution est une façon plus humaine d'exécuter un condamné à mort qu'une injection létale. D'autant que les États-Unis souffrent de pénurie des médicaments nécessaires à ces injections. Récemment, plusieurs détenus d'État tels que l'Oklahoma, l'Ohio ou encore l'Arizona ont subi des tentatives d'exécution douloureuses suite à des injections létales bâclées à cause notamment de nouvelles combinaisons de médicaments. Mais les critiques font valoir que la méthode du peloton d'exécution est un pas en arrière qui rappelle le Far West.
Et les États-Unis vont envoyer des drones d'observation Raven et 230 véhicules de transport Humvee, dont 30 blindés, a confié un responsable américain sous couvert d'anonymat à l'AFP, mais sans préciser le calendrier de ces envois. Les États-Unis ont déjà envoyé d'autres équipements militaires non létaux à l'Ukraine pour l'aider dans ses combats contre les séparatistes pro-russes, comme des radars anti-mortiers ou des lunettes de vision nocturne. La Maison-Blanche, qui soutient le régime de Kiev, n'a pas encore pris de décision quant à l'envoi d'armes létales comme les missiles anti-blindés réclamés par l'Ukraine. Quelques brèves africaines pour finir cette édition. Au Gabon, la grève des enseignants se poursuivait aujourd'hui malgré les appels du chef de l'État, Ali Bongo, à la reprise des cours qui sont paralysés depuis plus d'un mois. C'est ce qu'a annoncé des syndicats d'enseignants. À l'appel d'une vingtaine de syndicats de la fonction publique, notamment de l'éducation, les fonctionnaires sont entrés en grève début février pour réclamer des revalorisations salariales. Au Nigeria, 36 localités ont été reprises au groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement nigérien aujourd'hui, qui dit attendre d'une coopération avec ses voisins une défaite complète des insurgés islamistes. Et enfin, incertitude sur la reprise des négociations jeudi au Maroc en ce qui concerne la crise en Libye. Selon des sources politiques, les délégations des deux parlements rivaux doivent se retrouver. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans moins d'une heure pour la suite des informations.
Soyez au cœur de l'info sur VOA